Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui l'abbé Jean Bosco Baala et les prêtres de l'archidiocèse de Bukavu, acteur social et ancien président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, le CESAC qui est la grande institution de régulation des médias en RD Congo. Monsieur l'abbé Jean Bosco Baala, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand témoin et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, Kelly Stonikou. Vous êtes célèbre, vous savez, hein, et dans, chaque fois que quelqu'un passe dans votre émission, ça signifie que vous avez mesuré l'importance que cela vous avoir pour les auditeurs de Radio Capi, et je les salue tous.
Alors avec vous, dans notre entretien de tout à l'heure, nous allons parler de vous, monsieur l'abbé Jean Bosco Baala. Nous allons parler de votre passage à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avec tout ce qu'il y a eu comme problème lorsque vous étiez à la tête de ce conseil. Nous parlerons aussi de vos actions en tant qu'acteur de la société civile.
Oui, je n'aimerais pas parler plutôt de problèmes. C'est-à-dire que la vie des institutions, c'est comme la vie de toutes des nations, c'est comme la vie des personnes qui vivent dans une société. Tout cela est fait des choses positives, des choses négatives, des choses qui ratent. Et je voudrais vous corriger d'abord d'emblée. Vous avez dit ancien président du CESAC. En fait, c'est vrai, je suis celui qui a eu l'honneur de mettre en route cette institution d'appui à la démocratie qui est issue de la constitution de 2006. Mais comme vous le savez, puisque vous parliez des problèmes, nous sommes dans les institutions régies par la loi. Et donc, lorsque mes collègues avaient pris une mesure de suspension contre moi, j'avais fait recours à la Cour suprême de justice, qui agissait en ce moment-là comme Cour constitutionnelle et comme Conseil d'État. J'ai fait un recours en annulation de la mesure qui avait été prise, un recours en interprétation. La Cour suprême de justice ne s'est jamais prononcée. Donc, légalement, aujourd'hui,
je me considère toujours comme président du CESAC.
Il y a un président de fait, parce que pour des raisons peut-être politiques, et aussi de fair play. Moi, je n'ai pas voulu faire de problème. Je suis considéré comme haut conseiller. Mais comme vous le savez, tant que la Cour suprême de justice ne se sera jamais prononcée, personne ne m'a reconnu comme coupable de quoi que ce soit. Et donc, j'ai demandé l'annulation. Je considère aujourd'hui qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont pour ne pas gêner non seulement peut-être les autres institutions qui ont cautionné ce passage en force, parce que cela n'était pas tout à fait correct. Mais moi, je suis un homme de Dieu. Je sais ce qui s'appelle le pardon. Je sais aussi qu'en tant qu'acteur social, il ne faut pas gêner les institutions.
Alors, on en parle tout à l'heure, monsieur l'abbé Jean Bosco Baala. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière hein, pour parler de votre enfance. On parlera aussi de votre vie de prêtre. Comment vous arrivez à concilier la vie de prêtre et toutes ces activités socio-politiques que vous faites. Vous êtes né à Bukavu, au sud Kivu, un certain 30 janvier 1960.
Oui, j'ai 55 ans.
Et c'est là où vous avez passé votre enfance, vous avez grandi.
J'ai grandi à Bukavu, j'ai étudié au collège Al-Fadjiri des jésuites, à l'école primaire, à l'école secondaire, j'ai fait la section de chimie, c'est curieux, les gens quand ils m'entendent parler, ils disent, mais écoutez, vous avez fait quoi, les littéraires, parce que normalement pour faire le parcours sacerdotal, on allait au petit séminaire, mais nous sommes venus du collège Al-Fadjiri, et donc j'ai passé toute mon enfance là-bas, dans une famille de plusieurs enfants, et nous étions 9 à la maison, on n'a jamais donc eu. Et nous avons grandi dans une éducation très chrétienne, très, oui, très dévote. Hein. Maman était légionnaire, mon papa très engagé à la paroisse. Donc, naturellement, je me suis orienté vers le sacerdoce.
Et c'est ça qui vous a poussé à faire le choix pour le sacerdoce.
Oui, la rencontre aussi avec quelques prêtres qui m'ont frappé. Parce qu'en ce moment-là, dans les années 70, lorsque nous étions à l'école secondaire, il y avait beaucoup de problèmes problèmes, beaucoup de problèmes sociaux. Il y avait toute cette pauvreté qui était là. Et je voulais m'engager à aider les autres à découvrir une autre manière de vivre. Je me destinais à devenir médecin. Mais c'est après avoir rencontré un prêtre, un jésuite qui m'a frappé, un autre confrère actuellement qui est encore là, l'abbé Richard Mugaruka, qui nous a montré qu'un jeune pouvait faire de la musique tout en étant prêtre. Il est venu nous célébrer une messe où il jouait à la guitare tout en célébrant l'Eucharistie. Alors il nous a frappé et tout cela nous a poussé à dire on s'engage. Mais mon engagement finalement est venu au moment où j'ai découvert que on n'est pas prêtre simplement pour célébrer l'Eucharistie, pour prêcher la parole de Dieu. On est prêtre aussi pour voir, comme Jésus disait à ses disciples, lorsque ils sont venus lui dire « Mais ces gens sont affamés, qu'est-ce qu'on fait d'eux ?» Il leur a répondu « Donnez-leur vous-même à manger. » Et donc nous ne pouvons pas regarder seulement notre peuple souffrir et dire « Dieu vous aime ». Pendant ces temps, ils n'ont rien à manger, ils sont soumis à la misère, mais aussi à la torture et à toutes les formes de violence. Et c'est pour ça que moi je m'étais engagé, je me suis dit je deviendrai prêtre totalement. J'ai pris comme exemple, comme modèle, le père Théard de Chardin, qui disait le prêtre, ce n'est pas celui qui se nourrit seulement de l'évangile et des sacrements, mais c'est celui qui est le premier à prendre à bras le corps la réalité du monde pour le faire changer. Et donc j'ai été beaucoup influencé par la théologie de la libération.
Et c'est le combat que vous menez,
c'est le combat que je mène aujourd'hui, formé au grand séminaire de Moressa, formé aux facultés catholiques, devenue aujourd'hui université catholique.
Vous avez une licence en théologie dogmatique.
J'ai une licence en théologie dogmatique, une licence en philosophie, mais aussi un diplôme de gestion d'entreprise.
Ça fait plusieurs diplômes là.
Et aussi un doctorat évidemment en sciences de la communication et une licence en journalisme.
Vous vouliez vous rattraper par rapport au journalisme?
Non, c'était venu par hasard. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que mon évêque, Monseigneur Monziwa, avait appris, vous le connaissez, le grand jésuite qui est mort là, le martyr de la lutte contre l'agression. Eh bien, Monseigneur Monziwa s'était rendu compte que j'aidais à animer les émissions religieuses catholiques à la radio avec un père blanc, un père missionnaire d'Afrique, le père Grip Coven. Je l'aidais tout en étant encore au grand séminaire. Et puis après, lorsqu'il est mort, j'ai repris ses émissions avec un laïc qui travaille avec nous. Et il m'avait envoyé ici à Kinshasa pour pouvoir faire des études aux facultés catholiques, puisqu'on venait d'ouvrir la faculté de communication sociale. Mais en arrivant ici, il s'avère qu'ils étaient encore en premier graduat et nous étions déjà licenciés. Et donc nous sommes partis à Libreville pouvoir achever ses études. Mmh. Et c'est en rentrant au diocèse...
Il a senti en vous un talent journalistique, comme ça qu'il vous a encouragé.
Oui, bien, c'est vrai, je m'étais intéressé au journalisme, à la communication, bien avant. Au collège, déjà, j'étais dans l'équipe de rédaction de notre revue de l'école, mais aussi au grand séminaire, quand nous étions au grand séminaire de Moressa. J'ai participé donc à la rédaction de notre revue et je m'intéressais déjà non seulement à l'écriture, mais aussi à la parole. Mais j'ai beaucoup aimé surtout la radio, parce que c'est par la radio que j'ai commencé, tout en étant encore grand séminariste. Et après, comme jeune prêtre, j'ai continué à travailler non seulement en enseignant au grand séminaire, mais aussi en produisant des émissions religieuses catholiques. Je suis devenu d'ailleurs après, c'est dans l'histoire, je suis devenu après le responsable diocésain du service de communication sociale du diocèse. Et je produisais donc non seulement les émissions à la radio nationale, à la radio Mandeleo, que les ONG
C'était quel genre d'émission à caractère social, politique?
À caractère social, d'abord il y avait beaucoup de magazines dans lesquels je participais avec d'autres confrères, journalistes, mais je produisais surtout l'émission religieuse catholique qui est donnée toujours par le gouvernement, qui donnait une tranche d'émission à toutes les églises. Mais on nous a donné aussi une émission télévisée, et donc nous produisions d'occasions, d'images, des faits sociaux qui s'est passé. Nous essayons de faire entrer non seulement l'évangélisation, mais le combat social à travers l'évangile, en montrant que les gens devraient se prendre en charge et que nos paroisses, nos communautés ecclésiales de base étaient des pôles de développement et pouvaient développer en ce moment, non seulement une parole qui sauve, la parole de l'évangile, mais aussi une parole qui rend espoir aux plus démunis. Et c'est comme ça que donc mes émissions étaient très suivies, jusqu'au moment où un autre évêque est arrivé, Monseigneur Catalico, qui nous a poussé et qui nous a encouragé à créer la radio Maria Malkia Wamae.
Vous avez travaillé comme directeur de cette radio?
Oui, c'est moi qui ai créé la radio. Je suis parti en exil. Ça, c'est un épisode peut-être qu'il faut savoir. Le RCD Goma m'avait exilé. Je suis parti aux États-Unis.
Et pourquoi? Parce que vos émissions gênaient?
Oui, c'est vrai, en ce moment-là, il n'y avait pas moyen de ne pas le faire. Comme prêtre, d'abord, j'avais une prédication tout à fait très critique envers ceux qui étaient venus en disant qu'ils venaient libérer le peuple, mais qui massacraient les gens à Kasika. J'étais frappé. La première chose qui m'avait révolté, c'est le jour où un de mes étudiants, l'abbé Stanislas Wabolakome, qui était curé de Kasika, a été assassiné. Et il avait été, deux jours avant, il était chez nous à la paroisse de Kadutu. Nous étions avec l'archevêque actuel de Bukavu, où il était mon curé. Moi, j'étais directeur adjoint du centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie de diocèse, et donc responsable de la communication et porte-parole de l'archevêque. Et ce jeune homme a été assassiné en pleine célébration de l'Eucharistie. Ça m'a révolté. La mort des trois religieuses qu'on avait mutilées et massacrées m'a révolté au point que j'ai commencé ce combat. Nous avons convaincu les autres églises qu'il fallait que nous puissions créer une certaine solidarité pour pouvoir lutter contre ce mal qui nous arrivait. Et notre évêque a pris la tête de ce combat. L'archevêque Mouziou a été mort pour ça, parce qu'il avait osé écrire même à l'ONU pour dénoncer ce qui était en train de se passer après le génocide du Rwanda, lorsqu'on a déversé les 2 millions de Hutus sur notre territoire, et où tout était déstructuré, où on voyait que c'était la violence à l'état pur qui était en train de se faire aux yeux du monde entier, sans que personne n'intervienne. Et donc, après cela, Monseigneur Catalico a enfourché la même chose. Vous vous rappelez sa fameuse lettre de Noël, hein, en 97, où il a dénoncé ce qui était en train de se passer. J'étais parmi les fondateurs de la première association de défense des droits de l'homme chez nous.
C'est à partir de ces événements-là que vous vous êtes lancé dans la défense des droits de l'homme.
Exactement. Où nous avons créé le Radoski, hein, le réseau des associations de défense des droits de l'homme du Sud Kivu. Je suis devenu modérateur également de cette structure des églises qui était en train de se battre pour pouvoir faire la résistance civile. Nous nous sommes mis alors à résister de toutes les manières, parce que nous avons compris que ceux qui venaient là, ceux qui étaient là-bas, je garde un devoir de réserve parce que certains sont maintenant au pouvoir, bon, en ce moment-là, ce n'était pas des anges. Les ordres qu'ils donnaient avaient fait vraiment beaucoup de mal, beaucoup de dégâts. Et j'espère que l'histoire un jour les jugera, mais moi, comme prêtre, je dois donner le pardon. Mais je sais que, en ce moment-là, notre combat avait consisté à mobiliser la population, à faire que les gens ne désespèrent pas.
Vous avez poussé les gens à la xénophobie, monsieur l'abbé?
Non, ma sœur Kelly. Justement, ça n'a jamais été notre but et ça n'a jamais été notre combat. Pas haïr. Parce que lorsque vous envoyez des pensées négatives vers quelqu'un d'autre, ces pensées vous reviennent multipliées par deux. Nous avons justement voulu que les gens prennent conscience, n'est-ce pas, que l'autre qui est là-bas, ce n'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, c'est le système, c'est celui qui est en train de manipuler les choses.
Mais est-ce que la population avait compris ça comme ça?
Ah, elle a si bien compris. La population a si bien compris que tous nos mots d'ordre pour des villes mortes, pour des démarches, pour des actions citoyennes que nous faisions, taper sur les casseroles à midi, faire des sit-ins, etc. Nous avons fait beaucoup d'actions et ces actions là-bas n'étaient pas dirigées contre les gens. C'est les gens qui se mettent à interpréter, parce qu'ils essaient d'ethniciser. Vous savez, la technique, c'est d'essayer d'ethniciser les actions que les autres font. Mais nous ne sommes jamais tombés dans le piège de la xénophobie. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis fier de rencontrer certaines personnes qui étaient là-bas, qui appartiennent peut-être à des groupes qui étaient à la tête de ce mouvement et qui me respectent parce qu'ils savent que notre combat n'a jamais été celui-là. D'ailleurs, la preuve, lorsque nous avons voulu aller à Sand City, n'est-ce pas, nous, société civile de Sud Kivu, nous avons demandé qu'il y ait un membre du groupe de Banyamulenge qui puisse nous accompagner. Nous avons dû même renoncer à la présence d'un de nos chefs coutumiers. Et aujourd'hui, celui qui est là, je ne vais pas citer son nom parce qu'il est vice-ministre aujourd'hui, il est au gouvernement. Et il a toujours été correct parce qu'il s'est toujours considéré comme membre de la société civile parce qu'il dirigeait une association. Et il a toujours été considéré comme un ami, celui qui travaille de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui souffrent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de dire que notre combat avait abouti quand même à quelque chose de bon.
Si c'était une cause noble, juste, vous n'avez pas poussé les gens à la xénophobie, pourquoi vous êtes allé en exil? Pourquoi on vous a demandé, vous avez fui pratiquement?
Bon, je dois avouer que je n'ai pas fui. Qu'est-ce qui s'était passé? Mon évêque s'était rendu compte que chaque fois que nous nous adressions à ces gens là-bas qui dirigeaient ce mouvement-là, nous n'avions jamais de solution définitive. Jusqu'au jour où un d'entre eux est venu nous dire, il est venu dire à Monseigneur l'archevêque, il a dit, écoutez, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Les décisions se prennent ailleurs. Nous sommes allés voir l'ambassadeur des États-Unis, c'était une femme qui était à Kigali. Nous sommes allés lui parler et lui dire, voilà, ce qui est en train de se passer ici, ça ne peut pas continuer, n'est-ce pas? C'est lorsque nous avons compris que ce n'est pas eux qui dirigeaient, l'archevêque m'a envoyé en mission aux États-Unis pour aller expliquer. Et je fus reçu même au Congrès des États-Unis. J'ai rencontré beaucoup de gens au niveau du département d'État. J'ai connu même l'ambassadeur, monsieur James Swan. On s'est rencontrés, on s'est vu là-bas pendant une mission de lobbying où nous essayons d'expliquer, où nous avons essayé de dire que si eux voulaient que les Grands Lacs deviennent cette nouvelle et une nouvelle configuration. Il ne fallait pas le faire avec des gens qui venaient en agissant avec violence et des gens qui appartenaient à des pouvoirs peu démocratiques qui avaient massacré des populations entières de Hutu dans la forêt. Notre voix a été entendue parce qu'on a montré que ce n'est pas avec ces messieurs-là qui ordonnaient des massacres des populations civiles qu'on allait organiser les Grands Lacs pour en faire un pool de production ou de, je ne sais pas, un pourvoyeur de matières premières pour les grandes puissances. Aujourd'hui, je dois avouer que je me sens fier d'avoir connu cette période, d'avoir participé à cette période là-bas. Elle était dangereuse.
Membre très influent de la société civile, vous avez pris part à plusieurs rencontres politiques pour la réunification du pays.
Oui, nous avons été avec quelques autres collègues de la société civile dans les couloirs souvent, mais comme acteurs vraiment agissants, parce que nous avions d'abord une certaine influence. Et puis notre aura, j'allais dire, de pasteur, nous donnait quand même certaines entrées. Le fait aussi que nous avions déjà un agenda et puis un carnet d'adresses suffisant, étant donné que nous avions parcouru le monde. On a été à plusieurs endroits, on a participé à beaucoup de réunions. Lorsque on faisait justement les tractations pour la tenue du dialogue des Congolais, nous avons été à Libreville. Nous avons été à Bruxelles, on a été à Addis Abeba, on a participé pratiquement à toute cet affermissement de l'idée que les Congolais devaient résoudre les problèmes à l'intérieur. Lorsque nous sommes engagés effectivement à essayer de faire changer les choses, nous avons été pris comme cible. Et donc, bien souvent, moi, j'étais obligé de me cacher. Donc, quand je suis parti en exil...
Vous êtes resté combien de temps en exil, là?
Mais oui, bon, j'ai rentré souvent à Kinshasa, parce que je m'étais inscrit justement à l'université là-bas. Je voulais... c'est en ce moment-là que j'étais en train d'étudier. Mais en réalité, je suis resté de 2000 à 2006. Mais avec quelques épisodes où je rentrais au pays, notamment lorsque nous sommes allés à Sand City pour le dialogue... intercongolais où nous avons joué un rôle très important parce que c'est quand même nous qui avions proposé au niveau de notre délégation de la société civile la création de 5 institutions d'appui à la démocratie. Lorsque nous étions rendus compte que les politiques et les belligérants qui étaient là-bas n'avaient d'idée que le partage du pouvoir. Nous avons dit ils vont nous voler le combat que nous avions fait pour la démocratie. Et c'est comme ça qu'on avait demandé la création d'une instance pour les élections, la CEI, d'une instance de régulation des médias, n'est-ce pas, la haute autorité des médias, et le conseil pour les droits de l'homme, le conseil pour la lutte contre la corruption, et aussi la commission vérité et réconciliation. Au finish, il n'y a que deux de ces institutions d'appui à la démocratie qui ont bien fonctionné, c'est-à-dire que la CEI, mais aussi la haute autorité des médias. C'est comme ça que le législateur de 2006 ne retiendra que les deux parmi les institutions d'appui à la démocratie qui furent donc formellement identifiées, tandis qu'on donnait au législateur le droit de créer d'autres institutions qui viennent d'être créées aujourd'hui, comme la commission des droits de l'homme qu'on vient de relancer, mais aussi les conseils économiques et sociaux.
Est-ce qu'un prêtre peut faire la politique?
Faire la politique, c'est quoi exactement? Parce que je ne sais pas, moi je ne fais pas par exemple de politique. J'ai été élu par mes collègues de la Fédération des radios de proximité du Congo, c'est-à-dire les radios communautaires, dont j'avais été le tout premier président du conseil d'administration. Je fais partie des fondateurs de cette structure parce que nous voulions nous structurer pour que nous puissions effectivement, au niveau de la base, amener non seulement le développement et aussi cet idéal de défense des droits de l'homme. Cette structure de la société civile m'a envoyé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et je suis venu donc en tant que membre envoyé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est donc un combat citoyen. C'est un engagement citoyen que j'assume. Je n'assume pas des fonctions, j'allais dire, dans l'exécutif. Ce sont des fonctions dans une institution citoyenne qui est ouverte à tous.
Voilà, Abbé Jean Bosco Bayala, vous avez fait partie des leaders de la société civile du Kivu. Dites-vous que vous êtes très dynamique. Vous êtes détenteur d'une expertise sur les questions des pays dans les Grands Lacs. On l'a dit tout à l'heure, vous avez participé pratiquement à tous les pourparlers des pays dans la région depuis Lusaka. Jusqu'aux accords de paix de Goma.
Oui, j'étais même rapporteur général du comité national de suivi.
Et ça, c'est avant votre nomination à la tête du CESAC. Avant de parler de cette structure que vous avez dirigée, on va souffler un peu, monsieur l'abbé, comment vous passez vos moments de détente?
D'abord, je suis un intellectuel, je suis un chercheur, donc je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur. Je suis en train d'écrire deux livres, j'ai deux livres en chantier, je suis en train d'écrire l'histoire de la régulation des médias dans notre pays, mais aussi j'écris un livre qui est pratiquement achevé, mais je ne l'ai pas encore mis, je ne l'ai pas encore remis à l'éditeur qui l'attend. Parce que il y a
toujours
des choses...
les médias.
Oui, non. J'ai pris l'histoire de la résistance civile contre l'agression et toutes les raisons. En fait, je suis en train de monnayer, si je puis dire, ma thèse de doctorat qui portait sur justement la guerre de 1994 à 2004 en République démocratique du Congo. Où j'essaie de montrer comment la mondialisation, comment une guerre par procuration s'est faite à travers tout le système de la mondialisation. Je m'occupe, j'ai encore des cours à l'université, donc j'enseigne.
À l'université catholique
j'enseigne également à Libreville. Gabon, je vais partout où on a besoin de moi. Je m'adonne également à mon sport favori, je joue au basket. J'étais basketteur. Alors bon, j'essaie de me cultiver, je suis dans les bibliothèques de la place, mais aussi je participe à beaucoup d'activités culturelles. Je suis aussi consultant pour un certain nombre d'organismes. Ça fait que j'écris beaucoup, je lis beaucoup. Je suis un rat de bibliothèque et donc à un moment perdu, j'aime la musique également, c'est-à-dire j'écoute une bonne musique, de tango, yabawendo, j'aime franco, j'aime la musique religieuse évidemment, j'écoute même tous ces musiciens qui font de l'adoration, etc., qui ont introduit l'adoration dans la musique chrétienne protestante, j'aime ça.
Ouais. d'être un passionné de la lecture. Est-ce que vous aimez manger, Bimala?
Ah là là, bon, oui, c'est vrai, ben, vous voyez, je suis en bonne santé, hein, donc, c'est vrai, mais bon, moi, j'aime bien un bon foufou, du pandou, du poisson, surtout, j'aime pas beaucoup la viande, j'aime le poisson, vous savez, autour du lac Kivu, et puis j'étais curé d'une paroisse où on produisait beaucoup de poissons, j'étais curé de la paroisse de Katana, dans les années 88, 94 ou 95, et dans cette paroisse, j'avais même fait, donc, une pêcherie où on produisait du poisson, ça fait que chaque jour j'avais du poisson à câble, et donc oui, puisque je parle de Katana, je veux dire à la population de Katana encore une fois polé en Swahili, parce que leur église, mon église, est tombée avec le séisme de la fois dernière. Mmh, oui. Souhaitons qu'elle soit vite reconstruite, et donc j'ai vécu près du lac.
Donc, un mangeur de poisson,
un bon mangeur de poisson, donc si un jour vous m'invitez, Kelly,
je dois prévoir du poisson pour vous. C'est bien noté, monsieur l'abbé Chambostova, là, parce que vous avez parlé de la musique, vous écoutez de la musique aussi, que, oui, de temps en temps. Oui. Qu'est-ce que vous ferez plaisir en ce moment?
Oh, ce qui me ferait plaisir. Ah là là, ben, je ne sais pas si j'ai beaucoup le choix. Mettez-moi quelque chose qui vient soit de Luambo Makiadi. Je ne sais pas.
Bon, d'accord, on va demander à Mimi Kindo de nous proposer quelque chose, un disque de Luambo Makiadi pour le plaisir de M. l'abbé Jean Bosco Mala, qui est avec nous dans ce studio, mais aussi pour tous ceux qui aiment la musique de Franco. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Thank you. Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Jean Bosco Bahala, prêtre de l'archidiocèse de Bukavu, acteur social et ancien président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça qu'on sigle, monsieur l'abbé. Vous m'avez corrigé tout à l'heure oui. pour dire que les termes n'étaient pas bien utilisés lorsque je parle d'ancien président. Vous n'êtes pas ancien président.
Non, je suis président légitime. Il y a un président de fait. Bon, ça c'est la politique maintenant, hein. Ça c'est les raisons d'État comme on dit, on l'accepte. Moi, j'attends le jour où la Cour suprême dira que je ne le suis plus, je ne le serai plus, c'est tout.
Alors, vous êtes
je respecte les institutions.
Vous êtes nommé à la tête du CSAC en 2011.
N'est-ce pas? C'était vraiment un moment très difficile. Un moment difficile parce que nous avons été investis par ordonnance présidentielle le 12 août 2011 et en septembre de 2011, nous avons installé le bureau et en octobre, nous devions déjà commencer à gérer la campagne électorale. Et nous avons dû sortir avant même que nous ayons les structures prévues, avant que nous ayons au niveau logistique même des bureaux, parce qu'on était logés dans des conditions impossibles au 10e étage de la tour de la RTNC. Et nous avons dû vite prendre les mesures qu'il fallait pour pouvoir gérer la campagne électorale, parce que les élections c'était en novembre. Et nous avons dû mettre en place les commissions d'éthique et de vigilance électorale à travers les médias et les déployer dans les provinces sans moyens pratiquement en comptant sur des partenaires comme ceux qui l'Institut Panos Paris etc. qui nous ont aidés FEI etc. Nous avons dû organiser la prise de parole dans les médias des candidats à la présidentielle pour que la population les connaisse. Ça c'est une action qui a été positive parce que sur les 11, 9 quand même se sont présentés, n'est-ce pas? Et ils sont venus, et nous avons sélectionné des journalistes et qui ont pu leur poser des questions. Et c'est à travers ces émissions que la population a connu même le visage de certains candidats, ce qui est important comme exercice démocratique.
Action oui. positive du CESAC,
oui.
selon vous.
Oui.
Mais le CESAC a beaucoup été critiqué pendant cette période. Hein. Le CESAC, c'est une association de régulation des médias.
Oui.
C'est vrai, c'est une structure qui doit être indépendante, mais est-ce que le CESAC était vraiment indépendant pendant la campagne électorale de 2011?
Kelly, ces critiques ne m'ont jamais étonné. C'est vrai que nous venions de commencer dans des conditions complètement, j'allais dire, délétères. Et nous avons dû faire feu de tout bois. C'est normal que nous n'étions pas capables de pouvoir, j'allais dire, tout prendre en charge. Par exemple, les gens nous ont critiqué sur le fait que les médias, entre guillemets, proches du pouvoir, avaient donné plus de temps de parole aux candidats proches du pouvoir, à ce moment-là, par rapport aux médias. Lorsque nous avons fait l'évaluation, on a organisé une séance d'évaluation avec nos partenaires de FEI et d'autres, et dans cette évaluation, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Parmi les médias que nous avions sanctionnés, j'allais dire négativement, les médias proches du pouvoir avaient été beaucoup plus sanctionnés que ceux proches de l'opposition. C'est ce qui est curieux. Et ça, c'est des statistiques que nous avions faites, qui sont écrites noir sur blanc. Mais écoutez, lorsque vous avez 2000 candidats pour 500 postes...
Mais on a vu laisser ça quand même fermer beaucoup de chaînes de l'opposition.
Mais je n'en sais rien.
Mais vous êtes à la tête du CSA, comment vous n'en savez rien?
Justement, non. fermé, ça c'est une manière de parler. Et on a suspendu pendant des jours certains nombres. Il y a eu des médias qui ont été fermés. Ces médias n'ont pas été fermés par le CESAC. Je rétablis toujours chaque fois la vérité. Ces médias ont été fermés par mesure administrative du ministre en charge des médias. Non, le CESAC n'a jamais fermé des médias. Hein? Nous avons...
Et ça a coïncidé seulement pendant cette période électorale?
Ce n'était pas pendant la période électorale. Par exemple, certains médias qui avaient été fermés après. Dans la période électorale, il y a eu des mesures de suspension de certains médias. La fermeture n'est intervenue qu'après, sur des mesures administratives. Mais en ce moment-là...
Et toutes ces suspensions étaient dues à quoi? Au dérapage?
Beaucoup de dérapages. Vous savez, le paysage audiovisuel de notre pays doit encore être assaini. Nous sommes à notre deuxième expérience de régulation. Je vois des gens qui s'étonnent que l'on se mette à tâtonner. Déjà, que politiquement, pour pouvoir imposer une institution comme la nôtre, pendant 3 ans, j'ai dû trimer. Trimer pour avoir un budget, trimer pour avoir des salaires, trimer pour avoir des frais de fonctionnement. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les autres qui viennent d'arriver vont m'en parler. Ils vont m'en parler. Je sais qu'ils ont des difficultés. Nous avons dû souffrir et nous avons dû parfois serrer nos ceintures. J'entends des gens qui racontent des choses sur... Personne... Vous allez détourner de l'argent qui n'existe pas. Les gens ne vous donnent pas d'argent, vous allez les détourner de quelle manière? Donc il y a des choses sur lesquelles parfois, bon...
Là, vous parlez de vous, ça m'étonne
parce que personne, aucun inspecteur des finances ne m'a jamais convaincu d'avoir détourné quoi que ce soit, n'est-ce pas? J'ai jamais été jugé sur cette affaire là-bas. Et je dois dire aujourd'hui que j'ai la conscience tranquille, je suis fier de moi-même et je suis fier d'avoir laissé aux autres...
On ne vous a pas inquiété peut-être parce que vous...
Pourquoi proche du pouvoir? Ah non, écoutez. Moi, je viens de... si j'avais été si proche que ça du pouvoir, oui, on n'aurait pas laissé les gens.
Vous êtes venu de la société civile.
Oui.
Je vous rapporte ce que j'ai entendu, monsieur Labéba.
Je ne suis pas d'accord avec vous, Kelly.
De la
je
société suis civile. Le pouvoir vous récupère en vous nommant à la tête du CESAC. Et
non.
Vous travaillez pour le pouvoir.
Écoutez.
Vous muselez les chaînes ou les médias de l'opposition. Vous laissez les chaînes proches du pouvoir évoluer, même quand il y a des dérapages, il n'y a pas de sanctions.
Et aujourd'hui, ça a changé. Non, les mêmes plaintes continuent, non? Les mêmes plaintes continuent. Non, écoutez, soyons sérieux. Le fait que quelqu'un travaille dans une institution citoyenne comme moi, comme l'abbé Maloumal ou comme bien d'autres, ne signifie pas qu'il est nécessairement proche du pouvoir. Mais nous ne travaillons pas contre le pouvoir. Nous sommes une institution de la République. J'essaie souvent d'expliquer une chose comme celle-là, parce que nos citoyens doivent comprendre que travailler pour une institution ne signifie pas nécessairement travailler pour la classe politique qui est à ce moment-là au pouvoir. Ça signifie qu'on fait son travail comme citoyen. On est un fonctionnaire, n'est-ce pas? On essaie aussi de défendre les institutions. Ça, c'est l'autre différence. Ça signifie que lorsque vous êtes à la tête du CESAC, vous n'êtes pas un membre de l'opposition qui vient là pour pouvoir gérer les intérêts de l'opposition à travers le CESAC.
Mais vous n'êtes pas non plus
un membre du parti au pouvoir pour venir gérer leurs intérêts, parce que bien souvent, des acteurs politiques proches du pouvoir ont été sanctionnés, ont été interdits de passer parce qu'ils avaient dérapé. Non, tout le monde devrait se rendre compte que c'est vrai, ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice facile, et je l'avoue, aujourd'hui, je dois dire que notre démocratie est encore en plein balbutiement. Il arrive que, par exemple, on puisse considérer que vous n'êtes pas suffisamment dur envers ceux qui s'opposent au pouvoir, et les gens peuvent vous juger à cause de ça. Mais d'autres peuvent vous dire que vous êtes trop proche du pouvoir, et donc à ce moment-là, vous êtes à son service. C'est un risque à courir. Lorsqu'on accepte cet apostolat, il faut accepter aussi ce qui va avec. Mais je dois dire que mes collègues ont présenté au président de l'Assemblée l'autre jour notre rapport triennal. Ce rapport, c'est mon rapport. Ça signifie que c'est le travail que nous avons fait. Si donc j'avais mal travaillé au CESAC, on ne présenterait pas un rapport.
Mais pourquoi on vous a fait partir du CESAC?
Bon, je n'en sais rien, justement. Je continue à me poser la question. J'attends que la justice réponde à cette question. Moi, j'ai mon idée là-dessus, et c'est pour ça que
donc, l'affaire de détournement,
c'est un faux problème. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, puisque la preuve est là. Il n'y a jamais eu.
Ou encore, vous étiez devenu un élément gênant. On a voulu vous faire partir.
Probablement, certains m'ont soufflé cela. On a dit, écoutez, bon, peut-être que dans le contexte qui était celui, vous voyez, nous approchions des histoires, il y avait beaucoup d'effervescence. Il fallait peut-être qu'on laisse les mains libres pour que quelqu'un ne vienne pas faire obstacle. Moi, je me situe dans toutes les langues, comme vous savez, hein, je me situe pendant tous ces temps pour ne pas gêner ceux qui devaient prendre les décisions. Et pour ne pas gêner aussi la justice, parce que vous savez, la justice n'aime pas le bruit, et le bruit ne fait pas toujours du bien. Et moi, je me suis tué, et pas seulement comme prêtre, parce que je sais que la discrétion, c'est une de nos valeurs, nous devons être discrets, mais aussi, je me suis tué en tant qu'homme d'État. En tant qu'homme d'État, j'ai compris qu'à ce moment-là, les forces en présence ne devaient pas favoriser le fait qu'un homme comme moi qui m'opposait parfois à certaines choses soit là-bas. Aujourd'hui, vous savez, c'est la calmie parce que bon, personne ne dérange personne.
Peut-être parce qu'on vous a dit trop, c'est trop, vous allez vous taire, mais non, monsieur Labbé, bah là, parce que vous n'étiez pas d'accord de partir.
Non, non, d'accord de partir, de quoi?
Oui,
non.
De la présidence de CESAC,
monsieur Labbé. Le problème, pourquoi la présidence?
Vous êtes opposé, lorsqu'il y a eu élection, vous avez fait des déclarations, monsieur Labbé.
Non, c'est ça que je vous dis. Les institutions sont comme les hommes qui les animent. Les institutions ont des gens qui ont des idées divergentes. Vous comprenez? Moi, je venais avec mes idées, avec les idéaux pour lesquels nous avions voulu créer des institutions d'appui à la démocratie. Au départ, c'est ça que je venais avec. Je n'étais pas comme j'allais dire, quelqu'un qui sort de, on ne sait pas, nulle part, qui entre dans un truc qu'il ne connaît pas. Non. La gestation de cette institution a été, j'étais parmi ceux qui ont eu à faire la gestation de cette institution. Je savais ce que nous voulions faire. Et dès le départ, je le savais. Mais malheureusement, il y avait plusieurs ambitions. Certains voyaient seulement le pouvoir attaché à cette affaire. Nous étions plusieurs qui étions dans la même institution, qui voulions gérer cette institution. Et donc, dès le point de départ, dès le premier mois de ma prise de fonction, les problèmes ont commencé. J'ai dû résister, faire plusieurs fois des concessions, des conciliations, etc., jusqu'au moment où la raison politique a été la plus forte. Mais si on devait mesurer ce que nous avons fait pendant ces temps là-bas, j'allais dire dans une contestation permanente où personne n'accepte personne. C'est pour ça que lorsque on fait les institutions, il faut vraiment être très pointu dans l'identification des animateurs de ces institutions. Cette identification doit être faite avec minutie pour savoir d'abord s'il y a une collaboration possible, si les lois qui régissent cette institution et les règlements sont clairs sur certains points. Et c'est pour ça qu'il y a toujours l'arbitrage de l'instance judiciaire, que la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Malheureusement, notre justice est lente, c'est comme ça qu'elle est, c'est la justice de notre pays.
En attendant la décision de la Cour, vous faites quoi? Vous êtes toujours au CESAC?
Je suis toujours au CESAC, je suis toujours au Conseil, je n'ai jamais quitté, je suis au CESAC. Et bon, je considère également que je ne suis pas seulement là au CESAC comme un individu qui est là. Je suis là comme, je reste un acteur majeur de la société civile.
Et est-ce que vous entretenez des bonnes relations entre vous?
Ils ont atteint leur but pour moi. C'est moi qui suis tranquille aujourd'hui. Je suis tranquille parce que je n'ai plus des gens qui, chaque jour, me regardent ma chaîne de faïence devant moi. J'ai des gens maintenant qui me considèrent comme un collègue.
La réalisation me signale qu'il est temps.
Oui.
Il faudra conclure. Peut-être un dernier mot à tous les auditeurs, des bouquins à vous qui nous suivent en ce moment.
Oui. Je sais qu'il y aura beaucoup de réactions, certainement, venant de Bukavu. Je salue donc tous les miens et je salue également tous les auditeurs de Radio Okapi. Je vous ai dit que cette radio, c'est nous qui l'avons voulu d'abord et je voudrais souhaiter que cette radio continue même après la mission des Nations Unies, je l'espère. Mon mot de la fin, c'est de dire également, les institutions fonctionnent dans notre pays, mais elles fonctionnent dans les balbutiements d'une régénération qui va peut-être aboutir demain à un Congo nouveau un Congo prospère, un Congo que nous souhaitons pacifier, mais un Congo aussi vigilant par rapport à ceux qui cherchent sa disparition. Et il faut que ce Congo vive, il faut que les Congolais et les Congolaises soient heureux parce que Dieu leur a donné justement cette promesse.
Merci beaucoup, M. Lavi Bahala.
C'est moi qui vous remercie.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais l'abbé Jean Bosco Bahala, prêtre de l'archidiocèse de Bukavu, défenseur des droits de l'homme et ancien président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC en sigle. Merci à Mimi Kindou qui était à la prise de son, micro Kéline Touté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.